Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Une balle, une seule.
Christopher Walken, Meryl Streep, John Savage, John Cazal, Robert De Niro. Un film de Michael Cimino.
Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, 1978.
Go ahead. Go ahead, Stevie. Go ahead. Come on, you got. Go ahead.
Quel portrait est-ce que vous feriez de Cimino ? C'est quand même un drôle de personnage.
Alors, Cimino, je ne connais pas assez le personnage pour savoir quand il était sur le plateau et qu'on lui a dit vous atteignez presque le montant du film de Coppola, Apocalypse Now, et qu'il a dit non, mais là, il faut qu'on batte. L'heure de mariage de Voyage au bout de l'enfer, j'adore, et la suite aussi. C'est quelqu'un qui a un sens du rythme, du cadrage, de la vitesse, des jeux des acteurs, de la lumière, des décors. Enfin, c'est des gens comme on aime, c'est-à-dire qu'il a un tel sens du cinéma que c'est parfait, mais il en a une telle conscience qu'il faut qu'on lui donne, et puis voilà. Alors avec moi, ça a été d'abord, comme vous l'avez vu, une espèce de dédain. Après, ça a été au contraire l'amour fou, embrassade sur embrassade. Après, à Cannes, ça s'est très bien passé. Longtemps après, il a eu des transformations physiques aussi, même de visage. Enfin, c'est quelqu'un qui est certainement très perturbé, qui a des tas de problèmes personnels, mais toujours maintenant très courtois, répondant aux lettres, charmant.
Voyage au bout de l'enfer, la scène du mariage.
Have you, Stephen, a free will and a firm intention to take unto yourself as wife this woman Angela whom you see before you?
I do.
You have not promised yourself to any other bride?
I have not.
Have you, Angela, a free will and a firm intention to take unto yourself as husband this man Stephen whom you see before you?
I have.
You can take all the tea in China, put it in a big brown bag for me, sail right round all the seven oceans, drop it straight into the deep blue sea. She's a sweet Tupelo, honey. She's an angel of the first degree. She's a sweet, she's the sweetest Tupelo, honey. Just like honey, baby, from the dew. You can't stop us on the road of freedom. You can't keep us, 'cause our eyes can see. Men with insight, men in granite. chivalry. She does sweetness to below honey. She's an angel of the first degree.
She's an angel.
She's as sweet as to below honey. Just like honey, baby, from the bee.
The most controversial motion picture of its time. It is the most talked about and written about film of the decade. Now, from the director of The Deer Hunter, United Artists presents Michael Cimino's Heaven's Gate. The story of Jim Averill. He was born into the world of the rich and powerful, but his heart and dreams were with the people. Heaven's Gate. The story of a man's love for a woman, for a people, for a land, for a spirit that would never die. Kris Kristofferson in Michael Cimino's Heaven's Gate.
En fait, un beau jour, très tard dans la sélection, les artistes associés m'appellent et me disent, écoutez, si vous voulez, on vous fait une projection, mais il faut venir à Los Angeles, on ne peut pas l'amener à Paris. Bon. Je fais mes 11 000 km et à la descente de l'avion, il y avait une limousine des artistes qui m'emmène directement dans le grand studio d'MGM où j'étais tout seul avec mon assistante.
C'est Sylvette, non ?
Sylvette Desmeuses, bravo, qui vivait à Los Angeles à ce moment-là et qui m'accompagnait partout pour me traduire le cas échéant ou pour m'aider. On arrive là et immédiatement le film part et tout de suite je me rends compte que c'était pas très difficile, qu'on allait avoir affaire à un gros morceau, voire à un chef-d'œuvre. Donc on s'installe commodément, le film avance et puis tout d'un coup...
Cimino's ambition for his new film was not small. Heaven's Gate was going to be the Gone with the Wind, the Dr. Zhivago, the Lawrence of Arabia of the American West. It would be a towering achievement. The best Western ever made. For Michael Cimino believed that this was his moment.
Un brouhaha dehors, on entend du bruit, des portes qui claquent, la porte s'ouvre, la lumière se rallume, le film s'arrête. Et là, je comprends qu'il y a toute une histoire, et en réalité, c'est Cimino lui-même qui intervient en hurlant, qu'est-ce que c'est que cette projection, j'étais pas au courant, c'est dégoûtant, je l'interdis, ça va pas du tout, etc. Moi, je restais tranquillement dans le fond de la salle. Il ne s'était pas présenté, donc je ne le connaissais pas. J'attendais. Et puis, au bout d'un moment, le type très penaud, les artistes associés, il arrive et il me dit, écoutez, ça va s'arranger. Mais simplement, si vous voulez bien, là, bon, on sort, on va vous mettre dans une autre salle, on a d'autres films à vous montrer. Vous allez voir, ça va être très bien. Bon, j'avais une heure de film dans les jambes, plus 11 heures de vol, je commençais à être un peu naze. Et je suis tout ça, le type dit toujours pas bonjour, vraiment très, très très fâché. On m'installe dans une petite salle des artistes et on me lance un film dont je pense qu'il s'agit d'un film d'Ivan Passer. Là-dessus, au lieu de regarder le film, je commence à ruminer, à me dire, bon, mais ils m'ont quand même pas fait venir pendant tout ce temps-là pour simplement me dire que le type est fâché. Donc, j'étais très embêté. Puis, au bout d'un bon moment, le type des artistes associés revient et il me dit, écoutez, voilà ce qui se passe. Cimino veut bien vous montrer son film à vous tout seul. Mais dans sa salle à lui, qui, comme par hasard, est à l'autre bout de la ville.
This is Tijuana. Come.
Moi, j'étais prêt à tout. Donc, j'ai dit, bah écoutez, je suis à votre disposition. On m'emmène, mais j'avais toujours Sylvette avec moi. On arrive en effet très loin. Je me rappelle juste à côté, il y avait un restaurant yougoslave qui va revenir dans l'histoire. Et puis, là, il se présente. Il y avait toute son équipe, il y avait 50 personnes, qui me regardaient comme une bête curieuse. Et puis, là, il vient m'expliquer, il me dit, écoutez, voilà, je suis en conflit avec les artistes associés, mais évidemment, pour vous, c'est différent. Je vais vous montrer mon film.
But you said it all right.
What do you think?
What part?
Leave it.
Here?
Wyoming.
Wyoming?
Yeah.
You son of a bitch. Is that what the present was for? I think you would have stopped fucking me around and tell me directly what's on your mind.
Et on lance la projection, sauf qu'on repart de zéro. Et que je m'aperçois que le film était exactement le même. Mais il n'y avait pas deux minutes de changement. Alors, bon, je vois le film, puis au bout d'un moment, quand même, le film devient nouveau, et j'assiste à la fin du film.
This is Tijuana.
Bon, j'étais content d'avoir un film comme ça, qui avait déjà échoué complètement une première fois à New York. Échec critique, échec public. Du coup, Cimino a accepté quelques coups, quelques modifications à la demande du studio. Enfin, ça avait été très compliqué. Re-échec. Donc, il ne restait plus que Cannes pour le sauver.
There it is.
That's it?
20 mm can with armor-piercing shells. At exactly 10:30, Goody, you're going to drop Lightfoot off in the alley behind the Liberty Lounge. The window's already been fixed, so you can just climb right in there and change your clothes. At 11:30, you get in the telegraph office, and you got to get in there before 11:35, because that's when the alarm goes off. You just keep quiet, nobody gets hurt, understand?
Thunderbolt and Lightfoot, that sounds like something, doesn't it?
Se dire une chose qui est quand même absolument incroyable, c'est que quand Cimino a 37-38 ans, l'âge où il réalise Les Portes du Paradis, il a quand même déjà effectivement derrière lui Le Canardeur et Voyage au bout de l'enfer. Les Portes du Paradis, Heaven's Gate, est présent dans la sélection du Festival de Cannes en 1980. Et moi, je me pose toujours la question de savoir si on lui avait donné le prix, est-ce que ça aurait changé le destin du film et donc du cinéma américain. Je dis ça pourquoi ? Parce que, évidemment, ce film est devenu un film mythique, symbolique, d'une coupure dans l'histoire du cinéma américain moderne, puisque sorti en 1980, avant son apparition au Festival de Cannes, échec commercial, échec critique. Alors, ça pose la question, un film comme ça, de l'heure à laquelle arrive un film, un grand film dans l'histoire du cinéma. Parce que là, on a vraiment le sentiment qu'il y a un rendez-vous manqué. Et je voudrais juste lire un fragment d'entretien de Cimino, qui est paru dans le livre récent de Jean-Baptiste Torres sur Michael Cimino, Les Voies perdues de l'Amérique. Et Cimino lui explique qu'en effet, peut-être que l'accueil d'un film dépend de l'époque à laquelle il est lancé. La Porte du Paradis est sortie pendant les années Reagan. En 2-3 ans, tout a changé. C'était incroyable. Et La Porte du Paradis était un film totalement anachronique de ce point de vue. C'est vrai, puisqu'on veut voir des héros positifs, on veut voir une cohésion nationale, on veut voir...
Et ce sera la décennie de Top Gun. Hein, voilà.
On veut voir des victoires, en fait.
Put it in a big brown bag for me. Sail it right around all these seven oceans. Drop it smack dab in the middle of the deep blue sea. Because the tea that's sweet and Tupelo, honey. Yes, you are. She's an angel of the first degree. She's an angel. Thank you.
absolument incroyable, c'est que quand Cimino a 37-38 ans, l'âge où il réalise Les Portes du Paradis, il a quand même déjà effectivement derrière lui Le Canardeur et Voyage au bout de l'enfer. Les Portes du Paradis, Evans Gate, est présent dans la sélection du Festival de Cannes en 1980. Et moi, je me pose toujours la question de savoir si on lui avait donné le prix, est-ce que ça aurait changé le destin du film et donc du cinéma américain. Je dis ça pourquoi ? Parce que, évidemment, ce film est devenu un film mythique, symbolique, d'une coupure dans l'histoire du cinéma américain moderne, puisque sorti en 1980, avant son apparition au Festival de Cannes, échec commercial, échec critique. Alors, ça pose la question, un film comme ça, de l'heure à laquelle arrive un film, un grand film dans l'histoire du cinéma. Parce que là, on a vraiment le sentiment qu'il y a un rendez-vous manqué. Et je voudrais juste lire un fragment d'entretien de Cimino, qui est paru dans le livre récent de Jean-Baptiste Auret sur Michael Cimino, Les Voies perdues de l'Amérique. Et Cimino lui explique qu'en effet, peut-être que l'accueil d'un film dépend de l'époque à laquelle il est lancé. La Porte du Paradis est sortie pendant les années Reagan. En 2-3 ans, tout a changé. C'était incroyable. Et La Porte du Paradis était un film totalement anachronique de ce point de vue. C'est vrai, puisqu'on veut voir des héros positifs, on veut voir une cohésion nationale, on veut voir...
Et ce sera la décennie de Top Gun. Hein, voilà.
On veut voir des victoires, en fait.
And the most decorated cop in New York City has declared war on Chinatown.
I got a complaint about you already.
Today there were 43 gang arrests, 3 gambling parlors raided, 6 sweatshops busted.
You're only meant to shake up the gang kids.
And now, an opening blow at the man who's been called the godfather of Chinatown, Joey Tai. Mr. Tai, can you tell us if there is such a thing as the Chinese mafia? Mr. Tai, what is your comment? Mr. Tai, do you have any comment?
Let me make this real clear to you right here and now. Joey Tai goes to the mayor goes to me, and the word is lay off.
You think gambling, extortion, corruption are kosher?
What Chinese mafia? The investigation's in your mind.
These people are the biggest importers of heroin in this country.
The point here is you cease and desist.
Nobody wants to win this thing, do you?
You don't like it? Resign.
Maybe everybody's right.
I'm chasing something that doesn't exist.
This is not the Bronx or Brooklyn. It's not even New York. It's Chinatown, right? It can be very easy or it can be very hard.
Ce conseil de la semaine, ce sont deux films de Michael Cimino qui sont ressortis dans des copies bien sûr restaurées chez Carlotta. En particulier, il faut dire que L'année du dragon bénéficie non seulement d'une double Blu-ray DVD, mais aussi d'un livre de 208 pages avec le scénario pas traduit d'ailleurs, il faut connaître l'anglais, un scénario intégral en anglais, et puis quelques interviews qui ont déjà été publiées. Mais enfin bon, c'est un petit livre, c'est un bel effort d'édition. C'est vrai que ça vient dans la continuation de la ressortie des films de Cimino, et en particulier de ces deux grands films, il faut dire Le Voyage au bout de l'enfer et La Porte du Paradis. Ici, L'année du dragon vient peut-être sur les 6 films ou 7 films qu'il a réalisés, vient peut-être en 3e, et La Maison des Otages, qui est un remake du classique de William Wyler, n'est peut-être pas au même niveau que le film de Wyler, qui d'ailleurs était un très très grand cinéaste dont on parle moins que de Michael Cimino, mais qui mériterait qu'on parle de lui beaucoup plus souvent. Alors, pour en parler, évidemment, c'est notre cher N.T. Bean qui va s'y atteler.
Alors, L'année du dragon est un film qui tient le coup. C'est un film qui, à l'époque, avait été taxé de raciste anti-asiatique.
Oui, comme d'ailleurs Le Voyage au bout de l'enfer, oui. On avait accusé de racisme anti-vietnamien, ce qui n'était pas tout à fait faux. C'était un grand film, mais il faut voir les défauts de la cuirasse.
Oui, mais ce qui est intéressant dans L'année du dragon, c'est que les Asiatiques ont un rôle majeur. Même s'il s'agit du combat d'un flic un peu illuminé, et très antipathique d'ailleurs, joué par Mickey Rourke, les deux personnages asiatiques qui lui font face, la jeune journaliste de télévision jouée par la top modèle Ariane, qui est remarquable dans le film, c'est son premier film, et John Lone dans le rôle du roi de la pègre, qui est, on l'a souvent dit, le double inversé du personnage du flic, sont des personnages asiatiques extrêmement séduisants, ambigus, ambivalents. Et c'est vrai qu'en plus, à l'époque, parler des triades et de la mafia chinoise en Amérique, ça n'avait quasiment jamais été fait. Et je pense que, assez paradoxalement, la communauté asiatique a plutôt apprécié le film. C'est l'Amérique du politiquement correct qui a un petit peu attaqué le film. C'est un polar violent, en même temps avec des accès de mélancolie romanesque très intéressant, avec des ruptures de ton fréquentes et qui est mené avec une grande virtuosité dans la mise en scène par Cimino, qui reconstruit entièrement dans les studios de la Caroline du Nord le quartier de Chinatown avec la célèbre Mott Street, mais qui en même temps l'ajoute. Enfin, lui met des tas d'éléments qu'il a glanés dans ses repérages à Hong Kong ou ailleurs. Donc, c'est un Chinatown fantasmé dans lequel la caméra de Cimino est absolument virtuose.
Alors, il faut dire aussi que d'ailleurs, ce flic s'appelle Stanley White, ouais. Blanc. Là, on peut pas être plus clair dans l'aspect racial du film. Et puis aussi, on pourrait y voir un peu un parallèle avec les films sur Chicago des années 20 et 30.
Oui.
C'est-à-dire d'une transposition à New York du Chicago, comme d'ailleurs à peu près à la même époque, je crois pas me tromper, Brian De Palma faisait une version à Miami de Scarface qui était transposée dans le milieu latinos.
Absolument, c'est un film de pègre. Et ça fait plutôt partie de ces films, vous savez, des années 30 où vous aviez deux héros, l'un qui allait tourner mal et puis l'autre qui restait dans le droit chemin. Sauf que ici, c'est beaucoup plus ambigu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le scénario a été coécrit par Oliver Stone, et il y a un élément très important de l'histoire qui est que le personnage de Mickey Rourke, Stanley White, est un vétéran du Vietnam.
Say, shoot on down.
La deuxième chose importante, c'est un film où très souvent dans les dialogues, il est fait allusion aux ancêtres des personnages principaux, notamment au fait que les Chinois ont contribué à construire les lignes des voies ferrées au temps du western et qu'on ne les a jamais reconnus comme tels. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a une sorte de pamphlet assez fort par le petit stagiaire que Mickey Rourke a engagé et qui va sacrifier dans sa recherche de la vérité, qui lui dit ces quatre vérités et qui est assez fort sur la mauvaise conscience de l'Amérique par rapport à ses immigrants proches ou lointains. Donc ce côté-là fait continuité avec La Porte du Paradis.
Alors on peut dire aussi que c'est un film sur au fond le mythe du melting pot.
C'est un film qui démonte le mythe du melting pot et de l'Amérique de la diversité et du rêve américain. Et en cela également, il reprend ce genre du film de gangster des années 30 qui montrait un peu l'envers de l'American Way of Life.
Alors il faut dire aussi que dans les suppléments, il y a un très intéressant texte de François Guérif,
oui,
grand maître du polar chez Rivage, et qui parle du livre de Robert Dallet, parce que c'est adapté d'un livre. Mais comment, Ntebin, vous situez le film par rapport au Parrain? Parce que on peut y voir deux Italo-Américains. Alors évidemment, Coppola s'adresse à sa propre tribu, alors que Cimino parle des Chinois. Mais comment vous voyez dans l'esthétique même et dans la façon de travailler le récit
Bah déjà, le récit est totalement différent, puisque Le Parrain est finalement l'histoire d'une communauté à travers une famille. Or, L'année du dragon, précisément, est l'histoire d'individus qui sont tellement seuls qu'ils n'arrivent jamais à fonder une famille et qui vont, d'ailleurs, ils vont devenir, les deux personnages principaux vont tellement s'isoler que ça va se terminer par un duel de western, où vous avez les deux personnages dans un paysage urbain comme ils auraient pu être dans un western en plein désert. Et justement, le côté communauté ironique chez Coppola, puisque c'est une sorte de reflet négatif de l'idéal familial américain, ici, c'est plutôt le héros individualiste dont on voit la face cachée et l'isolement total, puisqu'il y a un personnage assez tragique qui est celui de l'épouse de Stanley White, qui joue un rôle très très important dans l'impossibilité pour le personnage principal de se trouver un destin au sein de la société américaine de l'époque.
Il y avait donc Brassin, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, qui est mon frère.